course effrénée, à puiser, comme Béryl le disait fortement, et la parole de Dieu le dit, à puiser dans ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, mais reconnaissez qu'il y a un Dieu, que ce monde n'est pas le fruit du hasard, et que c'est auprès de lui qu'il faut s'abreuver, qu'il faut vivre. Il y a un Dieu qui règne, on l'a dit tout à l'heure, on l'a chanté. Il y a un message de Dieu au monde dans ce psaume. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Y aurait-il un message pour l'Église? Et quel est ce message en ce moment pour l'Église? Mais je crois que c'est de prier sans cesse, en tout temps. En tout temps, particulièrement dans ce temps. De prier sans cesse pour, en communion avec l'Esprit, ne pas être ébranlé comme le reste du monde. Pour être efficace dans l'utilisation de nos armes, et la version parole vivante traduit bien ça. Il y a un manque d'efficacité qui vient de cet manque de prière persévérante. Et nous voulons être efficaces. Priez sans cesse pour avoir la force de communiquer le message que le monde a besoin d'entendre. Arrêtez. Si vous poursuivez votre course indépendamment de Dieu, c'est l'enfer. Non seulement sur la terre, mais et je suis repris ces derniers temps parce que je me dis, mais bon sang, Jésus parle de l'enfer et nous, nous n'en parlons pas. Et je suis repris, je me suis humilié devant Dieu, je dis, Seigneur, je dois transmettre toute la parole, mais je ne la transmets pas toujours entièrement. Rien que dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle 13 fois de l'enfer. Alors il ne s'agit pas d'amener au salut les gens par la peur, pas du tout. Mais nous ne pouvons pas cacher que la course sans Dieu mène à l'enfer. Et que le rejet de Dieu mène à l'enfer. Priez sans cesse pour que nous ayons la force de proclamer ce message d'un Dieu d'amour qui fait tout pour nous éviter, dans son amour, fait tout pour nous éviter l'enfer et l'approuver en envoyant son Fils. Alors je crois que s'il y a un message de Dieu à l'Église en ce moment, c'est prier sans cesse. On était réunis jeudi avec le comité Embrasse nos cœurs et on a prié. Et Maggie se rappelait, il y a quelques années, dans la même période, avant Noël aussi, juste après Noël, enfin la période de Noël, alors qu'elle se trouvait au Danemark et qu'il y a eu tout un temps de tempête, si on peut dire, qui a précédé ces tempêtes en France. Tempête comme il n'y avait jamais eu au Danemark. Elle était à l'école biblique à ce moment-là. Et le Saint-Esprit a mené Maggie à se tenir en prière toute la nuit. Et Maggie nous a dit, je sens la même chose, je sens que des temps difficiles viennent et qu'il faut que l'Église se mette en prière et accompagne, se mette en prière pour être ses sacrificateurs. Ses sacrificateurs pour vraiment le salut des âmes, pour la protection. Parce que notre pays bascule toujours entre le jugement et le réveil. Et comment il va basculer définitivement vers le réveil? Par la prière continuelle de l'Église. La prière continuelle. Encore vendredi soir, dans cette réunion de prière, c'est très riche ces moments. Je vous invite à venir le vendredi, c'est vraiment riche. Et là encore, c'était ça qui montait, Seigneur, répands cet esprit de prière. Et moi j'entendais cette parole jeudi soir, de la part du Seigneur, je dis un cataclysme sans précédent. Suite à cela, il y a une réponse du monde par une solidarité sans précédent, il faut le reconnaître. Il doit y avoir de la part de l'Église une prière sans précédent. Je crois vraiment que c'est le message de Dieu à l'Église. Et Dieu se tourne vers nous, voilà ce que j'attends de l'Église, cette prière sans précédent. Alors, où est cette Église qui prie continuellement? Où est-elle? On entend parler de celle de Corée, où les chrétiens se lèvent à 5 heures du matin. On a entendu parler de celle d'Ouganda et d'autres parties du monde, mais en Europe. C'est dur, il faut le confesser. Et même c'est dur pour moi aussi, c'est dur pour nous tous. Alors je ne suis pas là pour écraser ce matin, mais pour encourager. Et c'était notre cri vendredi soir aussi. Seigneur, d'où vient cette tiédeur? D'où vient cette tiédeur pour la prière continuelle? Pour qu'on puisse répondre à ce que tu attends de nous en ce moment. Et il nous faut pousser ce cri. D'où vient? Et j'ai commencé à répondre, à recevoir pardon, deux éléments de réponse à la prière. Et j'ai creusé ça un petit peu ce week-end. Je crois que la stratégie de l'ennemi, elle est très très simple. Très très simple. L'ennemi sait très bien que quand l'Église va se mettre à prier sans relâche, il ne pourra pas arrêter le courant. Il ne pourra pas arrêter un raz-de-marée spirituel. Impossible. Il le sait. Il ne pourra pas arrêter ce fleuve. Il sait qu'il devra céder du terrain. Qu'il devra céder la place dans bien des villes de ce pays. L'ennemi sait que la prière fervente vient d'un cœur qui brûle pour Dieu. Il le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Quelle est sa stratégie? Je vois deux choses. Première, nous éloigner notre cœur de Dieu, bien sûr. Éloigner notre cœur de Dieu. L'ennemi ne craint pas une bonne assemblée organisée avec des dons, des talents, des hommes éloquents. Il ne craint pas ça du tout. Il craint davantage une église où 5 ou 6 seulement ont un cœur qui brûle que 50 ou 100 avec plein de dons, plein de sagesse, plein d'intelligence. Parce que c'est les cœurs qui brûlent qui vont voir les réalités spirituelles. C'est eux qui vont voir les réalités spirituelles. Donc, la stratégie de l'ennemi, tu as ton cœur qui brûle. Et Dieu m'a montré qu'il y avait un lien très fort entre le zèle pour l'adoration et le zèle pour la prière. Et donc l'ennemi va essayer de nous attiédir pour l'adoration. Il va essayer de nous attiédir, on n'a plus de goût pour l'adoration, on n'a pas plaisir à adorer. Dieu m'a montré ces derniers temps que le dimanche matin, si je viens avec un souci ou un stress, je dois prendre position tout de suite, ça ne va pas. Ça ne va pas, je refuse. Nous devons tous refuser ça. Nous devons refuser que le dimanche matin, ça soit une charge.
Dieu nous attend pour être dans sa présence.
Et nous devons refuser. Si nous sentons cela, nous devons refuser. Prendre position. Il y a un lien très fort entre le zèle pour l'adoration et le zèle pour la prière ensuite. Et la frontière est mince. Et je doute fort que des gens qui deviennent des adorateurs, en esprit, en vérité, ne deviennent pas rapidement des intercesseurs. Rapidement. Es-tu dans la joie quand tu viens pour adorer ? Seigneur, dis pas ça du tout pour t'écraser, mais pour te relever ce matin. J'avais les yeux ce matin dans mon salon vers un petite plaque, petit panneau, je crois que c'était Christine qui avait offert ça, avec des éléments de la mer. Donc il y avait une bouée de sauvetage, il y avait des nœuds marins, 2 nœuds, et puis après au bout il y avait un navire qui allait au large. Et Dieu m'a montré que ce matin, il y en a qui peut-être crient au secours pour leur vie de prière ou leur vie d'adoration. Il y a des blocages, il y a des blocages et il y a des nœuds. Et la bouée, c'est cet appel au secours. Il y a un appel au secours peut-être, de l'un ou l'autre, même si c'est qu'un ou deux. Il n'y a plus de joie, il n'y a pas beaucoup de joie dans la vie de prière, il n'y a pas beaucoup de joie dans la vie d'adoration. Dieu te dit, il y a des nœuds et il connaît ces nœuds. Et Dieu te dit, je vais enlever ces nœuds, je sais comment faire. Et tu pourras être ce bateau qui prend le large. Tu pourras être ce navire qui prend le large. Tu pourras vraiment aller vers la croisière, aller vers le but auquel je t'appelle. Ah, j'en suis convaincu. Si vous cherchez la face de Dieu, Dieu va toujours vous montrer les blocages. Il va le faire. Ne doutez pas un seul instant qu'il ne vous montre pas. Ouais. Ne restons pas avec ces blocages. Ne nous habituons pas à rester avec ces blocages. Il n'est plus le temps maintenant. C'est plus le temps. C'est plus le temps. Et tournons nos cœurs vers Dieu, parce que je vais vous dire une vérité. Si nos cœurs ne sont pas tournés vers l'adoration de Dieu, très vite, notre cœur va se retourner vers d'autres sujets d'adoration. L'ennemi va combler le vide tout de suite. Et notre adoration pourra se tourner vers un personnage, ou vers des objets, ou vers le confort, ou vers la télévision, ou je ne sais quoi. Si notre cœur n'est pas tourné vers l'adoration de Dieu, très vite, il se tournera vers d'autres adorations. Parce que nous sommes faits pour adorer, mais pour adorer Dieu surtout. Alors voilà un premier élément de réponse. Satan cherche, s'il voit un cœur qui brûle, il va chercher à refroidir ce cœur, l'éloigner de l'adoration, parce qu'il y a un lien très fort entre l'adoration et la prière. Et une bonne réunion de prière est souvent une réunion, il y a un bon temps d'adoration, souvent. Un cœur qui brûle, ça contamine les autres. Voilà le point de départ d'un raz-de-marée spirituel. Un cœur qui brûle dans l'adoration, d'abord. Mais imaginez deux cœurs qui brûlent ensemble, trois cœurs, quatre cœurs, cinq cœurs, six cœurs, sept cœurs, huit cœurs qui brûlent ensemble. Ouh ! Alors là, c'est le début du raz-de-marée. Alors là, Satan, il panique ! Satan, il panique, il fait tout pour éviter. Et quelle est son autre stratégie ? Parce que surtout, il ne faut pas que des cœurs qui brûlent prient ensemble. Éloigner les cœurs. Alors ça, c'est le champion. Hein. C'est le champion. Diviser. Même diviser par des petites broutilles, quelquefois. Éloigner les cœurs. Il est vrai qu'il est plus facile de venir à une rencontre de prière si je suis en unité de cœur avec ceux qui sont là. Tandis que si j'ai une frustration, c'est plus facile là de trouver un tas d'excuses pour ne pas venir. Parce que oui, c'est ça que Satan cherche à faire aussi, éloigner les cœurs. Et s'il réussit, il y a une église qui est plus affaiblie. Parce que la force d'une église, c'est son unité de cœur. Et je vous fais remarquer que c'est dans nos perspectives, être un seul cœur. C'est dans nos perspectives, être un seul cœur qui brûle, bien sûr. Un cœur qui brûle. Éloignez les cœurs. Tout doucement. Mais on n'est pas obligé de nous laisser faire, dis donc. On n'est pas obligé de nous laisser faire. Allons-nous nous laisser faire? Non, nous n'allons pas nous laisser faire. Je me retrouve dans mes notes. D'accord. Où est la suite? Ouais. Remarquez la force de l'Église primitive, un seul cœur. Quand ils prient ensemble, un seul cœur, la terre tremble. Mais cette fois, c'est pas pour un raz-de-marée, c'est pour un raz-de-marée spirituel en quelque sorte. Pouf, 3 minutes. Voilà. Désolé, c'est le début du raz-de-marée. Je suis vraiment désolé. J'ai fait mieux que toi, Elisabeth. J'ai fait mieux que toi, je suis vraiment désolé. Voilà. Excusez-moi, je suis emporté par ma fougue. Voilà. Donc, nous n'allons pas nous laisser faire. Et comment nous n'allons pas nous laisser faire? Eh bien, en réglant vite les choses.
En réglant vite les choses.
Très vite. Ou est-ce que nous sommes de ceux attentistes? Vous savez, la frustration après se transforme en bouderie. Vous savez, la Bible dit « Celui qui se tient à l'écart fait ce qu'il lui plaît ». Réglons vite, oui. Se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. C'est dans les Proverbes, je crois. Je ne sais plus exactement la référence, oui. Celui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Et Satan n'a pas son pareil pour que dans l'Église, il y ait beaucoup de boudeurs. Et ça affaiblit l'Église. Ça affaiblit l'Église. Nous devons apprendre à régler vite les choses. Et souvent, il y a des éloignements de cœur sur des broutilles. Même si nous ne comprenons pas la même chose sur un point de doctrine, ce point de doctrine est-il essentiel? Même si nous n'avons pas un même aperçu de la chose, le Seigneur nous dit, mais au point vous en êtes, marchez d'un même pas, marchons d'un même pas. Bien sûr, il y a des situations exceptionnelles où nous devons résister quelquefois devant une œuvre de destruction qui peut amener à des séparations divines. Le Seigneur nous montrait ça dans la prière aussi vendredi. Hein. Bien sûr, hein, il y a des situations. Mais en manière générale, nous devons apprendre à régler vite les choses. Prenez Matthieu chapitre 5, verset 24. Ouvrez vos Bibles et lisez-le. Vous l'avez entendu ce verset, il est connu par cœur. Et pourtant, si tous les chrétiens d'une église mettaient cela en pratique, on irait beaucoup plus loin. Qu'est-ce que dit Matthieu 5, 24? Est-ce que quelqu'un veut le lire? Voilà, le premier qui l'a va le lire. Matthieu 5, 23 et 24. Oui, 23, oui.
Alors Jésus s'adresse à toute la foule, ainsi qu'à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens.
Non, ça ne doit pas être ça. Non, ça ne doit pas être ça. Alors, est-ce que c'est moi qui me trompe ou est-ce que c'est... Non. Oui, voilà, oui. Vas-y, Béryl, oui. Mon réconciliation est un mot fort, il a été cité au début de ce culte et je le citerai à la fin aussi en conclusion. Combien dans les églises nous prenons la scène en gardant une rancœur, sans régler les choses peut-être? Oui. Et là, ça veut dire, régler vite, ça veut dire, tu te souviens, t'es en train de louer, tu te souviens, va d'abord. Seigneur nous invite à régler vite, vite. pour éviter que petit à petit il y ait des éloignements de cœur, il y ait des frustrations qui grandissent et des éloignements de cœur. Nous pouvons vite nous retrouver et nous déclarer notre amour. Il m'est arrivé plusieurs fois de trouver quelqu'un en disant, tu sais, bon, oui, je ne suis pas d'accord, mais on peut se déclarer notre amour. On peut se bénir mutuellement. Et quelquefois, ça, pouf, c'était fini. Parce que nous, souvent, il y a une dramatisation. Elle aime dramatiser les choses, hein. Et il y a un esprit de jalousie qui, lui, va dramatiser des broutilles. Et là, nous devons vraiment prendre position contre cet esprit de jalousie. De quel côté sommes-nous ? Du côté de celui qui fait le jeu de l'adversaire ? Du côté de l'adversaire, en quelque sorte ? Ou nous sommes de ceux qui... Celui qui répond pleinement à notre vocation, qui nous est rappelé dans Corinthiens, et je vais terminer là-dessus. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Signal en passant, enfin je le dirai après. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il y a une version qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est en train toujours d'être une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec le Christ. Vous voyez que tu étais bien guidé, Lovday, en parlant de réconciliation ce matin. Et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le Seigneur nous invite à être ses ministres de la réconciliation. Et si une église est remplie de ministres de la réconciliation, elle marche vers cette unité de cœur et vers une église qui devient une église forte. Une église forte dans la prière. Parce que c'est une joie que de prier avec les autres. Et nous allons être tous des petits Christ. Christ n'a pas mis en avant, bon, j'attends que vous compreniez que j'ai raison. Hein. Quand vous comprendrez que j'ai raison, je viendrai à vous. Est-ce que le plus important, c'est d'avoir raison dans l'Église ? Ou est-ce que le plus important, c'est que Christ soit glorifié ? Et nous allons être des petits Christ, en quelque sorte, en ne mettant pas en avant la faute de l'autre, mais en aimant par-dessus. C'est ça que ce texte veut dire, en aimant par-dessus, encore. Souvenez-vous de ce que je partageais, l'ami aime en tout temps. Et cet ami qui aime en tout temps, c'est quelqu'un qui ne va pas tarder à être quelqu'un qui prie en tout temps. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Pas d'obstacle. Nous avons à être ces ministres de la réconciliation. Je crois qu'il y a un appel sur l'Église pour cela. Quand on s'est trouvé avec Annette à Béthanie, il y a eu une parole prophétique qui s'adressait à Annette et moi, mais à l'Église aussi, qui était « Vous êtes la réconciliation, le message, mais plus que le message de la réconciliation. Votre Église a ce message. » Je crois que c'est toute l'Église de Jésus-Christ quelque part. Mais peut-être qu'il y a un appel spécifique pour notre Église. Et nous devons aller dans ce sens. Nous devons entrer dans notre destinée. Nous devons entrer dans notre destinée. en étant ministre de la réconciliation, en aimant par-dessus la faute, hein, encore une fois, si ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des moments où nous devons résister, hein, au péché, qu'il n'y a pas, quelquefois, on peut vouloir apporter la paix, quelqu'un d'autre, celui à qui on apporte la paix, ne veut pas de la paix, enfin bon, voyez, hein. Mais en étant ces ministres de la réconciliation, nous pouvons être cette Église qui est dans le timing de Dieu. Et être cette Église qui est à l'heure de Dieu en ce moment. Pour la préparation d'un raz-de-marée spirituel. D'une effusion de l'esprit comme jamais il y en a eu. Pour être ces cœurs qui brûlent. Pas seulement ce cœur individuellement, mais ces cœurs ensemble qui brûlent. Ce qui va faire paniquer l'ennemi, ça je vous en suis sûr, ça j'en suis sûr. Alors ma conclusion est l'introduction à la scène maintenant. Et je ne sais pas comment on va faire. Ouais, voilà. Est-ce que le Seigneur invite à la table les ministres de la réconciliation? Voilà ce que j'avais à dire. Le Seigneur invite à la table maintenant les ministres de la réconciliation. Peu importe votre faiblesse, peu importe le combat que vous avez à combattre en ce moment, Dieu regarde à votre cœur simplement. Voulez-vous être simplement ce ministre? C'est un désir sans réserve. Mais s'il y a de la réserve, il y a une incompatibilité en quelque sorte à prendre la scène. Vous comprenez? Il ne doit pas avoir de réserve. Si je suis encore charnel, par exemple, entêté sur ma bouderie, que veut dire la scène que je suis en train de prendre? Vous comprenez? Il ne doit pas avoir de réserve à être ce ministre de la réconciliation. Pas de réserve. Alors le Seigneur invite à la table maintenant les ministres de la réconciliation. Voulez-vous l'être? Ces agents, ces artisans de la réconciliation. C'est la vocation que le Seigneur nous adresse. C'est un message pour le monde, c'est un message pour l'Église aussi. Pour que nous soyons cette Église qui prie sans cesse, qui protège son cœur, qui continue de brûler. D'aimer et de brûler. Alors je vous invite, on va prendre la scène maintenant, un petit moment de recueillement juste un petit moment avant de se lever, puis de venir ici, hein, les ministres de la réconciliation que vous êtes, se recueillir, comme la parole de Dieu nous y invite avant la scène. Examinez vous-même. Et peut-être faites le point, faisons le point. Y a-t-il quelque chose qui m'éloigne de Dieu? Et s'il y a quelque chose, le Seigneur peut guérir. Tout à l'heure, la parole de Dieu était très claire. Je suis là pour vous guérir. Apportez ce qui semble vous bloquer dans votre relation avec Dieu et vous empêche d'être peut-être cet adorateur, vous empêche d'avoir cette joie dans l'adoration, cette joie même dans la prière. Même si vous n'avez pas très bien d'écrire, vous pouvez dire, Seigneur, allez, je t'apporte ce nœud, ce blocage, et je te fais confiance pour en être délivré, en être guéri maintenant. Apportons au Seigneur peut-être ce qui peut nous éloigner les uns des autres aussi. Apportons au Seigneur. Et décidons fermement d'être du bon côté. Pas du côté de l'adversaire, du bon côté, décidons d'être fermement ce ministre de la réconciliation. Aimant par-dessus les fautes, aimant encore, même malgré les blessures qui ont pu m'être infligées, j'aime encore. Dieu vous a appelé à la liberté et dans cette décision d'aimer, le Seigneur veut vous rendre libre, libre. il a la force de mettre son amour encore. Nous voulons être cette Église qui exerce le ministère de la réconciliation. Nous voulons être cette Église qui marche vers cette unité de cœur pour être cette Église qui prie sans cesse pour préparer ce raz-de-marée spirituel. Nous voulons plus, Seigneur, tarder à régler les choses. Amen. Je vous invite à avancer. Donc ici, on va former un cercle, si vous voulez bien, d'accord? Si bien sûr les chantres ou les musiciens, vous avez un chant, bien n'hésitez pas à le prendre.